Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Patrick de Carolis, de l'Académie des Beaux-Arts, est avec nous pour évoquer son dernier livre, La Dame du Palatin. Une héroïne de l'Antiquité romaine, une des femmes de renom, glorifiée par Boccace et Montaigne, et aussi un sujet de tableau néoclassique. Je pense en particulier à celui de Jean-Joseph Taillasson, que l'on peut voir au Louvre. Ce tableau s'appelle « Pauline ramenée à la vie ». Patrick de Carolis, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre venue dans notre studio.
Merci de votre accueil.
Vous êtes journaliste, bien sûr, tout le monde le sait, créateur notamment de l'émission Des Racines et des Ailes. Vous avez présidé France Télévisions de 2005 à 2010. Journaliste, oui, et écrivain aussi. Vous avez publié Conversation avec Bernadette Chirac, Les Demoiselles de Provence et Refuge pour tant d'orages. Mise en scène cet hiver au Théâtre Héberteaux.
Absolument, Petit Héberteaux, oui.
Vous êtes très attaché à la Provence, votre refuge pour tant d'orages, et votre sensibilité aime se pencher sur les destins extraordinaires des femmes entraînées dans le sillage de leur mari, dans le sillage de l'histoire. Et leur dignité, leur courage, leur clairvoyance semblent vous toucher beaucoup. Dans La Dame du Palatin, votre passion pour l'histoire, votre érudition et vos talents de conteur nous emmènent sur les pas de Paulina Pompeius. Et là, je cite Montaigne, cette jeune et très noble dame romaine qui avait épousé Sénèque en son extrême vieillesse. Patrick de Carolis, pourquoi l'avez-vous choisie, elle, Paulina Pompeius ?
Alors, Paulina Pompeius, c'est une jeune fille qui naît en l'an 26 après Jésus-Christ. Elle naît en Arles, Arlate à l'époque, qui veut dire la ville près de l'étang. La région est infestée d'étangs. Elle naît dans une famille aisée, une famille de marchands, de négociants, une famille d'armateurs. Le père, Paulinus Pompeius, est armateur et son père, c'est-à-dire le grand-père de Paulina, quelques années avant, quelques décennies avant, a pris fait et cause dans le combat qui opposait César à Pompée, à Marseille, a pris fait et cause pour César. Vous savez qu'à ce moment-là, César a besoin de bateaux à fond plat pour battre Pompée qui s'est réfugié à Marseille. Et il fait appel à Arles. Arles est un port fluvial dans la spécialité de fabriquer des bateaux à fond plat. Et la famille de Pompeius, donc, fait partie de ces familles qui ont pris fait et cause, après pas mal d'hésitations d'ailleurs, pour César. Et César va remercier toutes ces familles, dont celle de Pompeius et donc celle de Paulina, et va remercier aussi la ville, Arles, et faire de cette ville la sixième colonie romaine, et donc va construire des aqueducs, des arcs de triomphe,
un cirque,
un théâtre qui va être le premier théâtre antique construit en pierre, un des tout premiers de l'Empire romain. Et va faire de cette ville donc la sixième colonie romaine, et si aujourd'hui Arles, telle que nous la connaissons, est la commune la plus importante de France en termes de superficie, nous le devons à César à cette époque-là. Le roman ne commence pas à l'époque de César, il commence quelque temps après. Après César, il y a eu Caligula, il y a eu Tibère, et il y a Claude. Et nous sommes au temps de Claude.
Et vous avez eu la subtilité de mettre les deux calendriers. Le calendrier antique, à partir de la naissance de Rome en 753, enfin avant. Et puis le calendrier qui est devenu chrétien,
calendrier chrétien.
Et ça, c'est très agréable parce que, bien sûr, que la mentalité des gens de l'époque utilisait le calendrier antique. Christos, dont vous allez parler, n'était pas encore là pour tout ça. Vous parlez déjà donc de cette période où elle est en Arles, avec les problèmes répulsion, attraction de la société gallo-romaine vis-à-vis de Rome, avec des personnages comme la tante Boudate, qui, elle, symbolise les racines gauloises, les druides. Vous parlez aussi de tout ce qui touche les femmes et ce qui touche la fragilité, désir de protection des femmes avec ses temples, ses religions.
Ah, c'est une période intéressante, mais que l'on peut toujours vivre actuellement dès lors qu'il y a déplacement de population, accueil de familles. Là, on est dans une province qui est la Provincia, qui est une province colonisée depuis quelques décennies par l'Empire romain, mais elle a toujours été colonisée. Avant les Romains, il y avait les Grecs, etc. J'ai voulu essayer de traduire un peu ce que ressentaient à cette époque-là les familles et que l'on peut ressentir aujourd'hui encore. C'est-à-dire avec des racines très provençales, très gauloises à l'époque. Et c'est effectivement, vous l'avez dit, Boubaté, la tante qui les incarne. Et puis cette aspiration à l'échelle sociale qui est incarnée par l'Empire romain. Le père, Paulinus Pompeius, veut absolument devenir sénateur. Il ne le sera pas, mais il sera bien doté parce qu'il deviendra...
Préfet de l'Annone.
Préfet de l'Annone, ce qui veut dire qu'il va diriger l'administration qui s'occupe de l'approvisionnement de l'Urbsk, de Rome, la grande capitale. Et donc c'est un titre extrêmement important qui d'ailleurs est à l'origine du déplacement de la famille et donc de Paulina qui vivra le restant de ses jours à Rome. Alors j'ai voulu traduire cette dissonance et avec d'un côté l'apparat, d'un côté cette famille qui fait partie de l'ordre équestre, et puis de l'autre côté les traditions toujours ancestrales, avec les druides. C'est une terre, la Provence à ce moment-là, extrêmement ouverte au courant de civilisation. Vous avez, comme c'est un port, eh bien, il y a les marins, et moi-même, ma famille arlésienne et provençale depuis des siècles et des siècles, était une famille de marins-pêcheurs. Et mes papiers, qui remontent très en amont, en tout cas de la lignée provençale, on retrouve un capitaine-pêcheur. Donc c'est une ville très ouverte au courant de civilisation qui arrive par la mer, qui arrive par le fleuve, qui arrive par les marins, et qui arrive aussi par les militaires, par les centurions. Le mitraïsme, par exemple, la religion de Mitra est arrivée de Perse par les centurions, les légionnaires.
Et vous parlez du culte d'Isis aussi.
Oui, il y a Isis, il y a tous ces courants qui sont, et c'est une terre très intéressante pour ça, de métissage. Et arrivera en son temps la secte de Christos, comme on le dit à l'époque, la secte de Christos, où à ce moment-là, quand Paulina arrive à Rome à l'âge de 23 ans, alors on n'est pas à un an ou deux ans près, hein, à l'époque on n'a pas cette précision-là.
Point des précisions comme ça.
Voilà, on sait à peu près qu'on est, la marge d'erreur, elle est entre 1 et 3 ans maximum. Elle a donc 23 ans quand elle arrive à Rome, et là il y a Saint-Paul, il y a Saul qui est à Rome, et arrive donc ce courant très fort du christianisme, et Arles est baigné par ce christianisme. Arles est un des berceaux du christianisme en France.
Saint-Trophisme.
Avec Saint-Trophisme, avec Saint-Geneste. Et il y a des légendes qui... moi, quand j'étais enfant, j'ai été bercé par ces légendes chrétiennes. Vous avez un cimetière qui s'appelle le cimetière des Aliscans à Arles, avec un fameux poème de Paul-Jean Toulet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est très court, qui dit « En Arles, où sont les Aliscans, quand l'herbe est rouge sous les roses éclaire le temps ?» Prends garde à la douceur des choses. Quand tu sens battre ton cœur trop lourd et que se taisent les colombes, parle tout bas au bord des tombes, si c'est d'amour au bord des tombes. Et les tombes, les tombeaux sont très présents dans cette ville. Et on vous rappelle en permanence que la civilisation chrétienne est passée par là, est née là. Et vous avez tout près des Aliscans une petite chapelle qui s'appelle la Genouillade. Et pourquoi s'appelle-t-elle la Genouillade? Tout simplement parce que la légende veut qu'à un moment donné, le Christ soit apparu et posé son genou sur une des pierres et laissé l'empreinte. Et on a dit c'est la Genouillade. Voilà. Donc vous voyez, moi je suis toujours baigné par toutes ces légendes, ces récits, cette croyance. Et donc j'ai voulu rendre dans ce livre un petit peu ces parfums et ces embruns,
oui,
qui ont été les miens, qui ont accompagné mon enfance.
Et vous avez tout à fait, avec de la poésie, montré l'histoire des mentalités. Nous allons parler de la grande histoire, puisque Claude, Néron, Sénèque, Burrus, etc. Mais là, vous avez dépeint des mentalités et en fait les vrais soucis de chacun. Et en particulier, la navigation. Alors là, c'est l'histoire commerciale. J'ai été très intéressée par vos descriptions des bateaux, ceux qui sont fluviaux, ceux qui sont maritimes, jusqu'où vont-ils, les vents, c'est Mistral, bien sûr, et puis après le Grégal qui gêne les côtes ligures,
oui,
et Ostie.
Et qui joue un rôle majeur dans la rencontre avec
entre
Sénèque et
Et alors tout ça, oui, parenthèse, ça c'est le roman.
Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Tout est vrai, sauf ce que j'ai inventé.
Oui.
Je n'ai pris aucune liberté avec la vérité historique. Je construis, je bâtis mes romans historiques vraiment avec une exigence de date, de faits, voilà, de faits historiques. Après, un peu comme le restaurateur de tableaux, quand il y a des manques, quand il y a des trous, quand il y a des parties de l'histoire qui est à nu, eh bien, je l'habille et j'essaie de redonner la texture de la peinture, la lumière de la peinture la plus vraisemblable.
Les parfums.
Mais les parfums aussi. Et voilà, donc j'essaie de me dire, est-ce que c'est plausible ? Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que ça aurait pu arriver comme ça ? Parce que l'événement est arrivé comme ça, mais comment l'aborder ? Et donc j'essaie d'imaginer à travers soit des personnages secondaires, soit le fruit de mon imagination. Oui, la rencontre de Paulina et de Sénèque, elle a eu lieu, ils se sont mariés. Grosso modo, tout à l'heure vous citiez Montaigne, en parlant d'extrême vieillesse, là il y allait un peu fort, parce qu'il a 50 ans, Sénèque, quand il épouse...
J'ai été fidèle au texte de Montaigne.
Oui, il épouse Paulina, il a 50 ans, elle en a 23. Alors c'est vrai, c'est un âge mûr, surtout pour l'époque. Mais aujourd'hui, c'est assez jeune. Donc, tout ça pour vous dire que la rencontre a eu lieu, mais on ne sait pas où elle a eu lieu. Aucun historien ne peut nous le dire. Donc, il faut bien la recréer, il faut bien qu'elle ait lieu quelque part. Et donc, il faut que ce soit vraisemblable. Et à ce moment-là, à cette période-là, Sénèque est en exil depuis 7 ans en Corse. Il a été exilé. Et je me dis que je dois la faire partir à Rome parce qu'elle rejoint son père, eh bien, je la mets sur un des bateaux de son père, d'ailleurs, le Gaïa. Et puis, le vent va se lever, le grégal se lève, la mer se déchaîne et elle est obligée pour ne pas couler, pour ne pas chavirer, d'aller s'abriter sur l'île la plus proche. Et l'île la plus proche, c'est la Corse. Et là, je crée la rencontre. Mais elle est naturelle. Par exemple, à travers cette rencontre qui va se dérouler sur 3 semaines, à peu près, le temps de réparer le bateau, je fais en sorte que les personnages se connaissent. Je fais en sorte qu'il se passe quelque chose entre eux, au niveau de l'intelligence, au niveau de la relation humaine. Et à un moment donné, il va lui dire « Vous allez à Rome, pouvez-vous être porteur d'un message pour Agrippine ?» Or, que dit l'histoire ? L'histoire, c'est que c'est Agrippine qui fait revenir Sénèque pour s'occuper de son fils, qui n'est pas encore Néron. Et qui s'appelle à l'époque Aernobarbus, il ne sera Néron qu'à l'âge de 17 ans. Et donc, je prépare cette décision. Et donc, je fais de Paulina la messagère qui ira, au moment où elle arrive à Rome, va voir Agrippine et porteuse de ce message. Donc, je donne chair, je donne corps à l'événement historique qui s'est réellement passé.
Quelle idée avez-vous eue pour trouver la raison pour laquelle Néron a protégé cette Paulina ?
Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Néron, qui n'était pas à une vie près, Néron, il a tué sa mère, Agrippine, il a tué son demi-frère,
Britannicus,
il fait tuer sa femme, Octavie, il fait tuer son maître, Sénèque. Il lui demande de se donner la mort.
Oui.
Pourquoi il épargne Paulina ? Et c'est vrai que l'histoire nous le dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Paulina veut partir dans la mort avec son mari, en bonne femme romaine, de devoir. Elle se donne la mort elle aussi, elle s'ouvre les veines, elle tombe d'inanition et il la réveille, il la soigne, on lui bande ses plaies, tout simplement parce que Néron a donné ordre à son médecin et au centurion de la ranimer. Et je me suis toujours interrogé. Toujours pourquoi ? Alors, soit je donnais une solution politique, l'ultime victoire de Sénèque sur Néron. Sénèque qui a toujours voulu inculquer les valeurs de justice, de démocratie,
de clémence,
et qui a échoué dans cette éducation. Eh bien, c'était peut-être là l'occasion pour lui de crier victoire et de dire, vous voyez, il a été clément avec Paulina. Je n'ai pas choisi cette solution parce qu'elle impliquait trop l'histoire. C'est-à-dire que j'avais très très peur à ce moment-là, de tordre l'histoire et de la manipuler. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas donner à un événement aussi important historique une interprétation qui était peut-être erronée. Donc j'ai choisi une interprétation beaucoup plus romantique, beaucoup plus romanesque. Et voilà, donc je ne dirai pas laquelle.
Et moi non plus.
Mais elle est romanesque.
Oui, elle est très belle. Elle est très belle parce qu'elle file depuis le début. En fait, je vous ai demandé des tas de choses sur la Provence, mais pourquoi l'avoir choisi, cette femme, elle ?
C'est un hasard le plus total. C'est un véritable hasard le plus total. J'ai écrit 2 livres que vous avez cités, qui sont 2 romans historiques, Les Demoiselles de Provence et La Dame du Palatin, sur du hasard. Les Demoiselles de Provence, je cherchais un lieu pour l'émission des Racines et des Ailes. et je vais visiter le château d'Angers. On est loin d'Arles.
Oui, mais elles ont été loin d'Arles,
et
les
voilà,
quatre.
Exactement. Et on me fait visiter la salle avec les magnifiques tapisseries de l'Apocalypse. Et la personne qui me fait visiter cette salle me dit, vous savez, ces tapisseries, elles n'étaient pas uniquement réservées à Angers, au château d'Angers, elles suivaient le comte d'Anjou. Et notamment lors de son mariage avec Béatrice, Béatrice de Provence,
oui,
la quatrième fille de Béatrice de Savoie et du comte Raymond Béranger V, en Arles. Alors j'ai dit, tiens, moi qui suis arlésien, je n'avais jamais entendu parler de ce mariage, ça m'étonne, mais c'est intéressant. Et donc je me suis penché un petit peu sur ce mariage-là, qui n'a pas eu lieu à Arles en fait, mais à Aix. Mais j'avais fait la connaissance de la quatrième fille du comte Raymond Béranger V, la première étant Marguerite, la seconde la cadette Éléonore, la troisième Sancy et Béatrice de Provence. Et c'est comme ça que ça m'a donné envie de raconter l'histoire de ces quatre filles.
Alors,
et
pour Paulina, la dame du Palatin.
Et pour Paulina, pareil, je m'intéresse à Sénèque. Vous avez cité Montaigne. Ben moi, je lisais Sénèque. Quand on lit Sénèque, on s'intéresse à Tacite parce qu'il faut aller lire Tacite. Et Tacite parle de Paulina. J'aurais pu tomber sur une phrase de Montaigne ou de Boccace, mais c'est Sénèque et Tacite. Et Tacite dit cette belle Arlésienne, femme de Sénèque. Et je ne savais pas que la femme de Sénèque, la deuxième femme de Sénèque, était arlésienne. Quand vous êtes arlésien, on vous parle de César, on vous parle de Marius, non pas le prénom de Pagnol, mais le prénom du proconsul Marius qui fait construire le canal. On vous parle de Césaire, on vous parle de Saint-Géneste, on vous parle de beaucoup de choses. Jamais je n'ai entendu prononcer le prénom de Paulina, Paulina Pompeius. Et j'ai vu mon arlésienne. J'ai imaginé que c'était, que ça devenait, elle était évidente. Et que ma mère ayant été arlésienne, elle aussi, en costume traditionnel. Voilà, ça m'a rappelé tout ça. Et je me suis dit, c'est à nouveau un signe que le ciel m'envoie après m'avoir envoyé les demoiselles de Provence. Voilà, c'est Paulina, femme de Sénèque.
Je voulais aussi vous remercier pour les passages que vous avez cités de Sénèque dans le texte. Parce que, Sénèque a énormément écrit, mais là, on perçoit beaucoup mieux le cœur, le fondement du cœur de Sénèque, et c'était une très bienvenue de faire ça.
Et j'ai essayé de donner aussi le tiraillement de Sénèque. Sénèque est un homme qui est tiraillé. Il veut être le sage, il veut être le philosophe qui a tout compris et qui ne se met jamais en colère et qui maîtrise sa raison. C'est pour ça que j'ai fait intervenir Saint Paul d'ailleurs.
Oui. Est-ce qu'il a vraiment dormi chez Sénèque en fuyant l'incendie
Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. D'ailleurs, je ne fais pas rencontrer Saint-Paul et Sénèque parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ne se sont jamais écrits.
C'est encore un clin d'œil.
Jamais. Mais là, voilà, il fuit le
oui.
Il
fuit c'est un beau message.
Voilà,
c'est
il fuit l'incendie. Et puis, ça me permettait de dire, voilà, le fondement de la religion, il est là. On ne peut rencontrer Dieu que par amour. Le philosophe, lui, parle de raison. Il est tiraillé entre ce besoin, cette envie de devenir sage, et puis en même temps, le plaisir qu'il prend et l'ambition personnelle d'être le conseiller des plus grands, des plus riches, et donc de l'empereur. Et c'est ça qu'il va le tirailler. Et quand il approuve le meurtre d'Agrippine par Néron lui-même, et que Paulina va le lui reprocher, il lui dira, il pourra trouver une explication politique, que ça va empêcher une guerre civile. Vous voyez, il est en permanence comme ça, entre « oui, il ne faut rien faire qui puisse nuire à l'humain » et en même temps, parfois, accepter certaines choses. Il y a une citation, puisque vous en parlez, qui m'a beaucoup ému, moi, beaucoup touché, et que je trouve très importante, très emblématique de ce que peut nous apporter aujourd'hui, parce qu'il est très moderne, Sénèque. C'est la phrase qu'il prononce, que je fais lui prononcer, qui est vraie, mais que je mets dans un contexte face au père de Paulina. Quand Paulinus Pompeius veut se retirer de Rome, il en a assez, il a vu trop de choses, trop de pression, et on lui demande petit à petit de faire lui aussi des choses qu'il n'approuve pas, et il a envie de se retirer. Et Sénèque le lui conseille, il lui dit « il est temps que tu te retires », et il prononce cette phrase « personne ne te restituera tes années perdues, personne ne te rendra à toi-même, sinon toi ». Et je pense qu'il y a beaucoup de choses de Sénèque dans cette phrase-là.
Et c'est d'autant plus vrai que Paulina est comme ça. Car elle reste totalement elle-même. Elle a réussi, elle, à être elle-même. Et ça fait partie de cette dignité des femmes, de ces vraies matrones. D'ailleurs, vous avez parlé souvent de Cornélie, la mère des craques. On sent qu'il y a un désir d'éducation, de formation des femmes très nobles, dans le bon sens du terme. Qu'elles représentent, elles ?
Oui, il y a une leçon.
Ça vous touche, ça,
oui,
ces gens-là.
J'ai une énorme admiration pour la gente féminine. Je trouve que la femme, dans son ensemble, avec un grand F, est courageuse, elle est entière. Alors elle peut être terrible, comme Agrippine, hein, dès lors qu'elle a quelque chose en tête. Mais quand même, je trouve qu'il y a une sagesse, une force, une conviction, un non-renoncement ou un non-reniement qui est important chez la femme.
C'est un beau salut pour ces femmes. Est-ce que vous avez un hasard dernièrement qui va vous mettre sur le chemin d'une autre femme dans
Mais non, j'attends. J'attends un signe. Je ne sais pas, peut-être que je changerai de région. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, voilà, c'est la Provence qui m'anime. Mais mon éditeur me dit quand même qu'il va falloir que je change un peu de région.
Merci Patrick Descarolis.
Merci à vous.
Je voulais dire à nos auditeurs que nous vous retrouverons sous la coupole le 12 octobre 2011.
J'ai été élu le 5 mai 2010 au fauteuil, laissé vacant par le regretté André Bettencourt. Là aussi, j'y ai vu un signe. C'est drôle, hein? La vacance du fauteuil a été déclarée le 17 mars. Le 17 mars, c'est la Saint-Patrick. Et André Bettencourt est décédé 2 ans avant, le 19 novembre 2007, jour de mon anniversaire. Et je me suis dit, c'est évident, je serai dans son fauteuil.
Ça va peut-être faire un roman. Merci Patrick Descarolis.
Merci à vous.